RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, RFI vous propose une rediffusion de grands reportages aujourd'hui. Alors que la Corée du Nord ne cesse de provoquer la communauté internationale et son seul allié, la Chine, avec des tirs de missiles à répétition qui déclenchent à chaque fois un tollé international. Alors Pékin, las de son petit voisin incontrôlable, a pour la première fois donné son feu vert à des sanctions plus sévères de l'ONU. Mais tient-elle parole et met-elle en place cet embargo? Reportage d'Eike Schmidt à Dandong, ville frontalière dans le nord-est de la Chine, l'une des seules portes d'entrée vers le pays le plus isolé du monde et donc le nerf de la guerre pour la mise en place de l'embargo international.
C'est l'heure de pointe aux douanes de Dandong. Des dizaines de camions attendent leur tour au bord de l'artère qui mène tout droit vers le pont de l'amitié, cet axe vital entre la Chine et la Corée du Nord. Planté derrière son volant, le camionneur chinois Liu Wan tue le temps en pianotant sur son portable.
Bihao. Ça fait longtemps que vous attendez ici ?
Ça fait 3 heures. Après l'inspection, les douaniers scellent les portes et nous laissent passer le pont. Ma cargaison a déjà été inspectée. Regardez, voilà les papiers tamponnés par le douanier.
Les sanctions décidées le 2 mars à New York provoquent de longues files d'attente ici, aux confins nord-est de l'Empire chinois. Dorénavant, les douaniers doivent inspecter chaque camion, en théorie en tout cas.
D'habitude, seulement 5% des conteneurs sont contrôlés. Maintenant, c'est presque 90%. Même si les douaniers laissent passer, un autre fonctionnaire peut vérifier, surtout les choses sensibles, comme les caissons en bois ou en métal, dont on ne peut pas voir le contenu.
Dandong est l'une des seules portes d'entrée vers le pays le plus isolé du monde et donc le nerf de la guerre pour la mise en place de l'embargo international. Pourtant, le trafic est dense. Ce matin-là, sur le vieux pont en acier, les affaires semblent continuer comme si de rien n'était. Mais non, nous assure le routier chinois.
Depuis l'adoption des sanctions, nos affaires vont mal. D'habitude, je travaille 5 jours par semaine, mais maintenant, je n'ai que 3 jours de boulot. Ce sont les sanctions les plus dures de toute l'histoire. Beaucoup de produits sont interdits, comme des produits chimiques et certains types d'acier.
À chaque nouveau tir de missile de la Corée du Nord, l'inquiétude monte d'un cran de l'autre côté de la frontière parmi les 2 millions d'habitants de Dandong. Il faut donc punir Pyongyang, estime Liu Wang.
Bien sûr que nous soutenons les sanctions. C'est une affaire qui concerne le pays entier. Et puis, la base militaire nord-coréenne est si proche de Dandong et de tout le nord-est de la Chine.
L'embargo ne fera qu'accroître la corruption et la contrebande, nous confie la patronne d'une entreprise import-export hors micro. Impossible pour nous de vérifier, rares sont ceux qui sont prêts à parler.
Dans mon camion, il n'y a que de la nourriture et des vêtements. On n'ose plus faire de contrebande. Même Pékin a envoyé ses observateurs. Si la corruption était monnaie courante dans le passé, ce n'est plus possible à présent. Un douanier contrôle et un autre passe derrière pour vérifier. S'il découvre une cargaison illégale, le douanier sera fini.
Policiers et douaniers patrouillent en nombre dans la zone d'inspection. Tout étranger est vite repéré et prié de quitter les lieux. Juste le temps d'apercevoir des écrans plats d'ordinateur, des sacs de ciment, des bobines de fil en fer, des produits pharmaceutiques aussi. À première vue, rien de sensible. Liu Wang, le camionneur chinois, plaint pourtant ses collègues nord-coréens.
Ils venaient avec des camions pleins de minerais de fer et d'or, mais maintenant, la Chine n'a plus le droit de les importer. Depuis, 90% des camions nord-coréens viennent vides pour charger de la nourriture, des vêtements et d'autres articles pour leurs besoins quotidiens.
Depuis sa cabine, le routier pointe du doigt les poids lourds rouillés immatriculés en Corée du Nord. Le contraste avec son camion rouge rutilant est saisissant. Garé au bord de la route, en attendant de rentrer chez eux, les conducteurs nord-coréens se montrent peu bavards. La Chine fera-t-elle plier son incontrôlable voisin en coupant le cordon ombilical entre Dandong et Sinuizhou sur l'autre rive, Che Inhong, professeur de relations internationales à l'Université du peuple de Pékin.
La Chine ne peut pas se permettre d'avoir un pays hostile à sa porte. Ses sanctions sont très strictes cette fois-ci et je veux croire que mon gouvernement applique la résolution sérieusement.
Chaque jour, le vieux Dandongais Wai Zhang se balade au bord du fleuve Yalu. Lui et ses amis retraités regardent les va-et-vient sur le pont de l'amitié et leur constat est unanime.
Dandong applique les sanctions de l'ONU. Seuls les produits de première nécessité passent encore. Nous le savons puisque les conducteurs chargent leurs camions au bord de la route. Il y a des fruits, de l'alcool, des biscuits, des vêtements, ce genre de choses.
Humilié par les provocations du jeune dictateur Kim Jong-un, Pékin s'est engagé à ne plus importer ni charbon, ni or, ni terres rares, ni titane, mais à condition que tout ce qui fait vivre la population nord-coréenne soit exclu de la liste noire de l'ONU, Che In-hong.
La résolution n'interdit pas la livraison de pétrole et laisse une grande marge pour l'importation de charbon et de minerais tant que les bénéfices ne financent pas le programme nucléaire. La nourriture aussi peut passer. C'est parce que la Chine ne souhaite pas l'effondrement du régime nord-coréen. Elle craint le chaos, un afflux de réfugiés, une lutte de pouvoir encore plus dure avec les États-Unis. Des risques que la Chine ne veut pas prendre.
Chaos and refugees and if it collapses, and there's great potential for much severe power struggle between China and the United States. China dare not to test.
Le soir venu, des adeptes du Tai Chi peuplent les rives du Yalu. Des enfants font voler des cerfs-volants au-dessus du fleuve qui sépare les deux villes et les deux mondes. Côté chinois, les néons des gratte-ciels, bars et restaurants illuminent le fleuve. Côté nord-coréen, c'est l'obscurité, regrette M. Zhang.
Vous pouvez juste deviner les contours de quelques bâtiments à Sinuizhou. Ils n'ont même pas assez d'électricité pour les éclairer. Ce n'est pas comme ici. Ils ne pensent qu'à développer leur défense militaire nationale et ne font rien pour développer leur pays.
Près du pont, bombardé par les Américains lors de la guerre de Corée en 1950, un musée rend hommage aux soldats chinois qui ont combattu aux côtés de leurs frères nord-coréens. Mais les ambitions nucléaires de Pyongyang ont mis fin à la fraternité frontalière.
Nous n'avons jamais voulu que la Corée du Nord devienne une puissance nucléaire, mais ils continuent de tester leurs missiles. La Chine s'est donc fâchée. Puis, si les Nations Unies veulent des sanctions, comment la Chine pourrait les refuser sans être pointée du doigt? Pourtant, la Chine et la Corée du Nord ont toujours été des pays frères, mais nous ne pouvons plus protéger ce frère.
« 90% du commerce nord-coréen dépend de la Chine. 70% des marchandises transitent par Dandong. Si Pékin ferme le robinet, le pire est à prévoir à Pyongyang, mais aussi à Dandong, comme le souligne ce jeune entrepreneur.
« Ce n'est pas une grande affaire pour la Chine, mais pour Dandong, oui. » Les hommes d'affaires locaux en dépendent. C'est dur, surtout pour les petites entreprises. Il y a énormément d'hommes d'affaires nord-coréens qui viennent ici, envoyés par leur gouvernement. Ils sont comme nous, mais on les reconnaît à leur habillement différent. Sur leur costume, ils portent un pin's avec l'effigie de leur leader, Kim Jong-un. Ils envoient leurs enfants à l'école et achètent des appartements ici. Dandong est une ville verte qu'ils apprécient.
Commerçants et hôteliers vivent grâce aux hommes d'affaires qui mènent leurs transactions légales et illégales dans les bars karaoké le long du fleuve. Hui, venu de Pékin pour vendre de la bière allemande aux Nord-Coréens, se détend au micro du bar des amis après une longue journée de négociations avec ses clients. Seulement l'élite nord-coréenne a les moyens de s'offrir la bière qu'il vend. Pour l'acheminer, il vaut mieux choisir le canal informel.
Hier, 30 caisses de bière sont parties en Corée du Nord. Nos clients les donnent à des Dandongais qui ont des relations avec des Nord-Coréens. Mes clients ne peuvent pas acheminer la marchandise directement, même s'il s'agit juste de bière. Des alcools plus prestigieux, comme le cognac cordage, ne passent plus.
C'est ce trafic informel qui fait vivre de nombreux vendeurs de souvenirs, comme cette dame qui vend des pins, des billets et des timbres à l'effigie des grands-parents et du père de Kim Jong-un.
Les Nord-Coréens d'origine chinoise nous amènent quelques cartons à chaque fois qu'ils passent la frontière. Comme ce miel, regardez. Ou ces concombres de mer. Ils ne peuvent venir qu'avec 2,5 kg. Ce qui se vend bien, c'est le ginseng, les concombres de mer, le miel et l'alcool. Mais ce n'est pas simple de les transporter par la voie officielle. Bien sûr que c'est lucratif pour eux, sinon ils ne le feraient pas.
La Corée du Nord n'envoie pas seulement son miel, mais aussi ses jeunes femmes connues pour leur beauté et très convoitées dans les restaurants locaux pour divertir les hommes d'affaires. Une partie du salaire de ces serveuses en costume traditionnel va directement dans les caisses de l'État nord-coréen.
C'est mon pays qui a conclu le contrat pour moi. Avant de venir, nous passons des examens. Nous devons savoir chanter et danser. Si nous sommes doués, nous pouvons choisir l'endroit de travail. La plupart d'entre nous sont en contrat à Dandong. D'autres sont engagés à Shenyang et Pékin.
Cette fille d'une vingtaine d'années, née à Pyongyang, n'a pas le droit de nous parler. Nous enregistrons ses propos grâce à un micro caché. Comment ressent-elle les tensions entre les deux pays?
Nos relations sont bonnes. Il y a des changements, mais je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Chinois et Nord-Coréens sont des amis, et ça restera ainsi.
C'est ce que veut aussi croire Reilly. Elle a pris l'un des bateaux de tourisme pour se rapprocher au plus près de la rive nord-coréenne où quelques ouvriers en combinaison noire s'affairent sur un chantier naval.
Nous leur faisons signe pour leur montrer que les Chinois sont chaleureux. S'il y avait une guerre, ce serait horrible. J'ai entendu parler des sanctions, mais cela ne changera pas l'amitié entre nos deux peuples.
La crispation chez les voisins d'en face est pourtant palpable.
Salut! C'est un bateau de pêcheurs nord-coréens. Dans le passé, ils nous saluaient. C'est différent maintenant. Il y a beaucoup de soldats. Ils n'ont pas le droit de nous saluer.
10 kilomètres plus au sud, là où le fleuve Yalu se jette dans la mer Jaune, le rêve chinois de conquérir la Corée du Nord par le commerce appartient au passé. Du projet de zone transfrontalière, il ne reste que les piliers en béton qui surgissent de l'eau. L'autoroute s'arrête au milieu de nulle part.
C'est l'oncle de Kim qui a proposé de construire ce pont, mais Kim détestait son oncle et après l'avoir tué, il a mis fin à ce projet. Ça a coûté très cher à la Chine. C'est dommage que le chantier n'ait pas été fini. De notre côté, les travaux sont terminés. Tout dépendra de la Corée.
Ce résident pointe du doigt un parking géant sur lequel trône un bâtiment en verre flambant neuf.
C'était censé devenir un dépôt de marchandises. Les camions auraient dû passer par ici pour entrer en Corée du Nord. Mais les Nord-Coréens n'en veulent plus. Les bureaux des douanes auraient dû déménager ici pour décongestionner Dandong. La nouvelle cité aurait dû accueillir 300 000 habitants.
Une forêt de tours résidentielles baptisée Singapour avec des centres commerciaux, une école et même un stade. Cette cité futuriste est aujourd'hui une ville fantôme où seuls quelques pêcheurs préparent leur bateau pour leur première sortie de l'année.
Il n'y a personne ici. Ça ne s'est pas bien développé. Ces buildings ont été construits pendant 3 ou 4 ans et puis plus rien. Personne ne vient. Regardez tous ces bâtiments. Personne ne vit là-dedans.
Tous ces milliards de yuan gâchés, c'est la faute du jeune leader Kim, arrivé au pouvoir en 2011, selon l'avis de ce Dandongais.
C'est Kim Jong-un qui a créé ces tensions. Il est pire que son père. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête. Il déteste la Chine, vraiment. J'ai même entendu dire qu'il veut nous attaquer.
Pékin fera le nécessaire pour mettre Pyongyang à genoux. Liu Wan, le routier chinois, en est convaincu.
Les Nord-Coréens n'ont pas d'autre choix que de bien se comporter. S'ils ne mettent pas fin à leur programme nucléaire, comme le veut l'ONU, ils ne tiendront pas plus de 6 mois. Ils ne peuvent plus rien vendre et donc plus rien encaisser. Comment pourront-ils survivre? Ils ne produisent rien, même pas assez de nourriture ou des machines industrielles légères. Pour tout, ils dépendent de la Chine, même pour le ciment et les engrais.
Tant que Pékin n'arrive pas à raisonner Pyongyang, eh bien Liu Wan ne pourra pas rouler sur le pont flambant neuf et devra acheminer ses marchandises via le vieil ouvrage en acier qui crée des bouchons monstres dans le centre-ville de Dandong. Chine, Corée du Nord, leur désamour se fait sentir à Dandong. Grand reportage, Heike Schmidt et Caroline Kahn. Réalisation, Souel Kedir.
Grand reportage à retrouver, à réécouter sur RFI.fr.
I'm gonna take my road, make my road. I'm gonna walk on by all night long. I'm looking for a home. I'm gonna march till down, on and on. Walk, walk high, seasons go by. Walk, walk by. Change my tone. I'm gonna sing it out on my own. I'm gonna see you bone. I'm gonna jump right into the unknown. Walk, walk high, seasons go by. Walk, walk by. Suddenly I walk, walk high, treason and I walk, walk till the day I die.
Tous les jours, accent d'Europe.